Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger au cœur d'un véritable duel médical.
C'est exactement ça, un duel.
D'un côté du ring, on a une technique chirurgicale, disons classique.
Réputée efficace, mais plus invasive, oui.
Exactement. Et de l'autre, une approche bien plus moderne, moins lourde.
Qui s'apparente presque à une simple injection.
Le combat se joue sur le terrain de l'incontinence urinaire à l'effort, mais, et c'est le point clé, pour une population dont on parle très peu.
Les femmes de moins de 40 ans.
Une nouvelle étude de l'International Urogynecology Journal a justement tenté de les départager.
Et la réponse, on va le voir, est bien plus nuancée qu'on pourrait le croire.
C'est un excellent point de départ, ça.
Oui. Parce que cette étude, elle est importante précisément parce qu'elle s'attaque à une zone d'ombre.
Une zone d'ombre.
Absolument. Les premières lignes de la publication le disent très clairement. Les résultats des traitements pour ce groupe d'âge sont, je cite, « rarement rapportés ».
Donc on navigue un peu à vue, d'habitude.
C'est ça. Ce travail ne vient pas juste confirmer ce qu'on sait déjà, il vient littéralement éclairer un coin sombre de la connaissance médicale.
Et d'ailleurs, pourquoi ce manque de données? C'est une question qui vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que c'est plus rare chez les femmes jeunes ou il y a d'autres raisons?
Alors, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. La prévalence est moins élevée que chez les femmes plus âgées, c'est vrai.
D'accord.
Mais elle est loin d'être négligeable, surtout chez les jeunes sportives ou après un premier accouchement.
Et j'imagine que les projets de grossesse, ça complique les choses pour les études.
Exactement. La question des grossesses futures, c'est un facteur de complexité majeur. Beaucoup d'études se sont concentrées sur des populations post-ménopausées pour éviter cette variable.
Ce qui rend cette publication d'autant plus précieuse.
Voilà, elle ose regarder là où c'est plus compliqué.
Bon, le décor est planté. Pour bien comprendre le verdict de ce duel, il faut connaître les combattants.
Oui.
De quelles interventions on parle, précisément?
On a deux approches très différentes. La première, c'est la pose de bandelettes sous-urétrale.
La méthode classique, donc.
C'est la méthode de référence, oui. Une intervention chirurgicale bien rodée. En gros, on place une petite bande de support sous l'urètre pour le soutenir lors de l'effort.
C'est efficace, mais ça reste une chirurgie.
Voilà, avec tout ce que ça implique en termes d'anesthésie, de récupération.
Et son challenger, l'approche plus moderne.
L'autre option, c'est le comblement périurétral. On utilise un produit qui s'appelle l'hydrogel de polyacrylamide, ou PAG.
PAG, d'accord.
Pour faire simple, c'est une technique d'injection. On injecte un gel autour de l'urètre pour resserrer les tissus et améliorer la continence.
C'est beaucoup moins invasif, j'imagine.
Ah oui, carrément. Ça peut même parfois se faire sous anesthésie locale. On a donc un vrai choix de philosophie.
La construction solide d'un côté...
Et le renforcement par injection de l'autre.
Et toute la question, c'est est-ce que le résultat est le même?
C'est la question. Pour y répondre, les chercheurs ont regardé en arrière.
Ils ont analysé les dossiers de patientes déjà traités. C'est ce qu'on appelle une étude rétrospective.
C'est ça. Et elle a été menée dans 15 centres différents.
15 centres, c'est plutôt un bon signe de solidité, non? Ça évite le biais d'une seule équipe.
Exactement. C'est un point fort. Ça permet d'avoir une vision plus large des pratiques et des résultats dans la vraie vie.
Et ils ont rassemblé combien de cas?
Ils ont les cas de 377 femmes de moins de 40 ans, toutes traitées entre 2020 et 2023.
D'accord. Et points essentiels, j'imagine qu'ils ont vérifié que les deux groupes de patientes étaient similaires au départ.
Absolument, c'est la base. Les caractéristiques, l'âge, le poids, etc. Tout était similaire. La comparaison est juste.
Bon, 377 femmes, c'est un échantillon respectable. Mais est-ce que les deux groupes, bandelettes et injections, étaient de taille comparable? C'est souvent un piège, ça.
Et vous mettez le doigt sur un point crucial.
Ah.
Il y a un déséquilibre important. Sur les 377 femmes, 337 ont eu une bandelette.
Donc, seulement 40 ont reçu l'injection de PAG.
Voilà, on est sur un ratio de plus de 8 contre 1.
Ah oui, quand même. Est-ce que ça ne fausse pas un peu la comparaison?
Ça ne l'invalide pas, mais ça nous oblige à être très très prudents dans l'interprétation.
D'accord.
Surtout quand on va regarder les pourcentages. Un petit événement dans le groupe de 40 personnes aura un impact statistique beaucoup plus grand que dans le groupe de 337.
C'est une information de contexte capitale à garder en tête pour la suite.
Absolument. Et ça reflète aussi sans doute une réalité de terrain. La bandelette reste le traitement le plus courant.
Bon, méthode solide, mais avec ce déséquilibre à surveiller. Voyons maintenant les résultats. Le verdict des chiffres. Et on commence par le court terme, un mois après l'intervention.
C'est ça, le premier bilan. Et là, les résultats sont très nets.
Ah !
Dans le groupe bandelette, le taux de succès, donc guérison complète ou amélioration significative, atteint 97,8%.
Attendez, 97,8%. C'est quasiment parfait. On pourrait croire que le match est plié d'avance.
C'est un score spectaculaire, oui.
Et pour l'autre technique, les injections?
Pour le PAGG, le taux de succès est de 88,6%.
Ce qui est un très bon résultat en soi.
Oui, mais la différence de presque 10 points est bien réelle. Et l'étude confirme qu'elle est statistiquement significative.
Ce qui veut dire que ce n'est pas dû au hasard.
La probabilité que ce soit le hasard est extrêmement faible, oui.
D'accord, statistiquement significatif, c'est le mot-clé. Mais en pratique, on peut se demander, passer de 89 à 98% de chances de succès, est-ce que ça justifie une chirurgie plus lourde?
Et c'est là qu'on sort des statistiques pures pour entrer dans la décision médicale partagée. Pour une personne, la chirurgie sera un petit prix à payer pour maximiser ses chances. Pour une autre, le côté moins lourd de l'injection justifiera de prendre ce risque.
L'étude ne répond pas à cette question personnelle, mais elle donne les chiffres.
Elle donne les chiffres objectifs pour nourrir cette réflexion. Mais attention, ce n'est que le premier round.
C'est vrai.
Le plus intéressant, c'est ce qui se passe avec le temps.
C'est souvent là que les choses se compliquent. Que disent les données à un an?
Eh bien, le tableau change. Pour les bandelettes, le taux de succès reste très haut, mais il baisse un petit peu à 92,9%.
D'accord, ça reste excellent.
Et pour les injections de PAAG, il passe à 81,8%.
L'écart se resserre un peu, mais il est toujours là, il y a encore environ 11 points d'écart.
L'écart semble là, oui, mais ce qui a changé, c'est le verdict des statistiques.
C'est-à-dire?
À un an, l'étude nous dit que cette différence n'est plus statistiquement significative.
Ah, d'accord.
Autrement dit, avec les données disponibles, on ne peut plus affirmer avec un haut degré de certitude que les bandelettes sont supérieures.
La supériorité qui semblait écrasante au début s'estompe, statistiquement en tout cas.
C'est ça.
C'est fascinant. C'est un vrai retournement de situation. Comment c'est possible?
Et c'est là qu'on revient à notre déséquilibre du départ.
Ah, les effectifs?
Exactement. Pour ce suivi à un an, les effectifs fondent. Les chercheurs n'ont pu récupérer les données que pour 71 patientes du groupe bandelette et...
Et pour l'autre groupe?
Seulement 11 du groupe PAAG.
11. Mais on ne peut rien conclure de fiable avec 11 personnes.
Et voilà, c'est le point qui est un peu frustrant. Avec seulement 11 patientes, on perd toute notre puissance statistique.
Donc la différence est peut-être bien réelle, mais on ne peut plus la prouver.
C'est la nuance fondamentale, oui. L'absence de significativité ne veut pas dire absence de différence, mais absence de preuve.
Donc le mystère reste entier sur le long terme. C'est une information cruciale. Avant de conclure, il y a un autre résultat, plutôt rassurant cette fois.
Oui, et c'est une excellente nouvelle pour les patientes. L'étude rapporte que les taux de complications étaient faibles.
Dans les deux groupes.
Faibles et similaires dans les deux groupes. Quel que soit le choix, le profil de sécurité semble bon.
Ce qui est une bonne chose. Le choix peut donc se concentrer sur l'efficacité et le côté invasif.
Voilà, sans qu'un risque de complication majeure ne vienne peser dans la balance.
Parfait. Alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, quelle est la conclusion finale des auteurs?
Leur conclusion est très prudente et logiquement, elle s'appuie sur leur résultat le plus solide.
Celui à court terme.
C'est ça. En substance, ils disent que les femmes de moins de 40 ans traitées par injection de PAAG présentent des taux de guérison à court terme.
Significativement plus faibles.
Exactement. Significativement plus faibles que celles traitées par bandelette. Ils insistent bien sur le court terme, car c'est là que c'est indiscutable.
En gros, le message c'est... Si on veut le résultat le plus sûr et le plus rapide, les données actuelles penchent pour la bandelette.
C'est ça. La bandelette gagne le premier round par chaos statistique.
Mais le match à long terme reste ouvert.
Faute de combattants suffisants dans le deuxième groupe pour que l'arbitre puisse rendre un verdict clair.
C'est une image très claire. On a donc une contribution importante pour un sujet dont on ne parle pas assez.
Oui.
Mais en même temps, elle ouvre d'autres questions.
Elle ouvre surtout la porte à une réflexion plus large. L'étude, comme toute bonne étude, se concentre sur un critère mesurable. Quel est le taux de guérison?
Le critère objectif.
Par excellence. Mais la décision finale pour une patiente, elle, est bien plus complexe.
C'est-à-dire?
Pour une femme de 35 ans, active, sportive, qui envisage peut-être une autre grossesse, d'autres facteurs peuvent être tout aussi importants, sinon plus.
Comme le temps de récupération, par exemple?
Oui. Ou le retour au sport? Est-ce que l'injection, même un peu moins efficace, lui permet de retourner au travail en 2 jours au lieu de 2 semaines?
Quel est l'impact de chaque technique sur une grossesse future? Toutes ces questions sur la qualité de vie, en fait.
Exactement. Et elles ne sont pas dans l'étude, ce n'était pas son objectif.
Mais c'est là que cette recherche prend tout son sens.
Voilà. Elle fournit une donnée essentielle sur l'efficacité, une pièce maîtresse du puzzle. Mais elle nous rappelle que la décision finale ne se résume jamais à un seul pourcentage.
Elle se construit dans un dialogue.
C'est ça, un dialogue où les chiffres de la science rencontrent les priorités d'une vie. Et cette étude, eh bien, elle vient donner aux patientes et aux médecins des éléments plus solides pour avoir cette conversation essentielle.